aiderons nous entretenir de sujets à la pertinence la plus relative possible. Je me lancerai encore dans des monologues visant à défendre les underdogs de ce monde, le tout arrosé d'extraits audio de films et autres chansons douteuses et ou excellentes. Toujours dans le but, bien sûr, de conserver votre intérêt. Après tout, c'est ça le but. Si j'ai votre intérêt, je vous divertis. Et vice-versa. Bien sûr, différentes émissions usent de différentes stratégies pour ce faire. Ainsi, dans la toute première chronique de la saison, vous ferez face à deux façons différentes de capter et conserver l'attention des auditeurs. Attention, c'est parti.
On m'a toujours pas dit ce qu'il y avait sur cette cassette exactement.
J'ai une petite montée de lait à passer en commençant. Je vais peut-être vous surprendre, vous apprendre quelque chose, mais les soupers de filles, c'est quelque chose de sexiste. Et oui, n'en déplaise aux très nombreuses personnes de sexe féminin qui écoutent cette émission, la simili-tradition de souper, soirée de filles, est une pratique sexiste acceptée socialement parce qu'il est plus politiquement correct d'être de sexe féminin que masculin. Est-ce que ça existe, des soupers de gars? Non. En fait, si, ça existe. Mais par la bande...
Loupé, je vais te dire ce qu'il y a sur cette cassette. Il y a le pouvoir de sauver ma famille.
On fait des pieds et des mains pour garder un sexe en particulier dehors. Comme lorsque l'on avait 8 ans.
Bien sûr que l'on se faisait un cul
de pas de fille. Par analogie, un souper de fille est tout autant sexiste qu'un souper de noir ou un souper de blanc peut s'avérer raciste. Ah, bien sûr, les gars qui se forcent pour garder les filles dehors tombent dans le même pattern. Pis ça, ben, c'est moche un peu. On est mieux de viser les personnalités que les sexes, hein. Ceci étant dit, ça fait tellement de bien. C'est un petit peu pour Jeannette que j'ai dit ça, là, pour essayer de m'expliquer, là, parce qu'on en a parlé l'autre fois. Alors, la saison est commencée, le mood est revenu, le peps ici que j'ai, c'est débordant. Mon cher ami Simon est parti s'acheter des points de pizza, il devrait revenir dans pas longtemps. Ce qui me laisse le temps de vous présenter le contenu de cette première émission de la Cour à Scrap Hiver 2005. Alors, on a pour vous aujourd'hui la toune thème de Mission Laser, un film très mauvais des années 80. Une recette de tarte aux pommes, pas de pommes. Il faut garder un crayon et un papier tout prêt, je vous le promets, c'est l'expérience gustative culinaire la plus hallucinante de ma vie. On parle de Pikmin, un excellent jeu vidéo. Côté BD, parce que j'aime la BD, on va parler de Kokaratsu, des auteurs Michette et Bossé. Finalement, de la musique, on ne peut plus varier. On va commencer avec quelque chose d'excellent. Ceux qui connaissent les Pixies, ceux qui ont vu les Pixies, ouah, ceux qui n'ont pas vu ça, je vous laisse savourer.
Bien sûr que tu n'as pas fait de la vidéo.
Alors, qu'est-ce que le douteux? J'en ai parlé un petit peu tantôt. Qu'est-ce que le douteux? La meilleure réponse se trouve dans votre quotidien. Sinon, Dollar à Clip, ex-émission de Musique Plus Louis-José Houde, ont su officiellement introduire le public québécois au domaine. Pour bien le comprendre et l'analyser, je vous propose d'utiliser une toute nouvelle échelle de notation des films. Moins 10 à 10. Trois valeurs sont impossibles au sein de cette échelle, soit moins 10, 0 et 10. Moins 10, c'est la perfection douteuse. La perfection n'existe pas. 0, c'est comme regarder un mur blanc, ce qui est assez moche et assez, comment dire, incongru. 10, c'est la perfection. Un critique qui donne la note parfaite assassine sa crédibilité. J'insiste sur ce point. Tous les films qui seront présentés à cette émission, tous les jeux vidéo ou la majorité des produits en fait présentés à cette émission se verront attribuer une note selon cette échelle. Bien sûr, plus on se rapproche du moins 10, plus ce que l'on voit ou entend est douteux, donc mauvais et divertissant tout à la fois. Le douteux, c'est de l'absurde non situationnel. Beaucoup de du plaisir qu'il procure demande que l'on imagine les créateurs qui, après avoir durement bossé, se sentent fiers et satisfaits de leur travail. Immédiatement, je vous shoot deux preuves aux propos. Vous m'en donnerez des nouvelles. Ah. On ne parle qu'à ça, ne va. Ce qui rythme nos pas, c'est le rap. C'est une autre valeur pour vivre nos plus belles années. Rien ne pourra nous empêcher d'en profiter. On l'entend mais des jours, le rap.
De charbon est arrivé un gars, un genre de grand tocson. Il pesait 300 livres puis mesurait 7 pieds. C'est pour ça que les mineurs l'avaient nommé Gros Jambon.
Gros Jambon, Gros Jambon,
Gros Jambon. C'était un gars bien tranquille qui parlait pas beaucoup. Puis tout seul dans son coin, il prenait tout d'un coup. On le voyait chaque matin descendre dans mine avec ses deux sandwichs puis sa canne de bine. Gros jambon.
Gros jambon. Gros jambon.
Gros jambon.
Il y a personne qui savait de quel coin il venait. Mais nous, on se doutait bien que ça devait tout le temps, il mangeait bien des cartons, puis il avait tout le poil frisé comme un mouton. Le gros jambon.
Gros jambon.
Gros jambon.
Là, tu passes un matin dans 8e galerie, les madriers s'écrasent, puis l'explosion retentit. 23 mineurs sont là, prisonniers comme des rats. Et parmi ces 23, il y avait comme de raison, Gros Jambon.
Gros Jambon, Gros Jambon.
La poussière, la fumée, puis de la steam. On a vu un géant s'emballer d'un gros bim. Le lever d'une seule main, puis de la côté sur le plafond. Afin de laisser sortir les 23 moribonds. Gros Jambon.
Gros Jambon. Gros Jambon.
Gros Jambon.
Et pendant que le géant tenait le plafond de la mine en l'air, les 23 ont rampé jusqu'à vers la lumière, oubliant que dans le fond, au milieu de la skim, il y en avait encore un qui tenait toujours son bim. Gros Jambon.
Gros Jambon. Gros Jambon.
Un Gros Jambon.
Et quand les sauveteurs ont voulu redescendre, il y a eu d'un grand cri qui se fit entendre. Et tout le monde a compris qu'au milieu de la skim, le gars au fond de la mine avait lâché son bim. Gros Jambon.
Gros Jambon. Gros Jambon.
Gros Jambon.
Et depuis ce matin-là, devant la mine de charbon, on peut voir sur un mur écrit au crayon des petites phrases bien courtes, mais qui en dit bien long. Dans le fin fond de la mine, il y a un grand, grand tocson. Gros Jambon.
Gros Jambon.
Gros Jambon.
Gros Jambon.
Assez touchant quand même, hein? Je pense que vous avez compris mon point ici avec deux exemples tirés de... quand même, on pourrait dire notre passé culturel québécois commun à pas mal toutes les personnes qui écoutent. Hein? Peut-être qu'il y a des Danoises qui écoutent, par exemple. C'est pas votre passé culturel commun à vous, là. C'est à nous. On assume, on assume. Alors, on passe ici à Mission Laser. Mission Laser, c'est un film de 1990, même si ça a l'air d'être beaucoup plus vieux, tellement c'est mal filmé. Réalisé par B.J. Davis. Ça, c'est un gars qui, mystérieusement, s'est ensuite trouvé un emploi de chorégraphe de combat. Allez savoir pourquoi. Comme tête d'affiche, Mission Laser nous offre le très surestimé Brandon Lee. En résumé, un savant américain découvre le moyen de produire un laser à partir de diamants bruts. Comble de coïncidence, le plus gros diamant du monde est découvert au même moment en Afrique. On engage donc Michael Gold, Brandon Lee, pour faire le ménage à grand renfort de claques à aïeul. La plus grande source de souffrance du film, c'est l'incroyable suffisance de Brandon Lee, duquel je crois avoir déjà mentionné qu'il était très surestimé. Ah, pis, comme tout le monde s'en fout, je vous gâche le punch cheap de la fin. Le docteur qui a inventé le laser ne meurt pas pour vrai. C'est lui le boss des méchants qui a engagé le meilleur des meilleurs pour faire sûr qu'il avait un alibi en béton. Comme dans Ace Ventura 2, Collège Kickboxer, La Vengeance du Faucon, Ravage, Les Cavernes Souterraines, Meurtre à Acapulco, Cœur de Kickboxer et tant d'autres. Un bon moins 6, ce Mission Laser. Et pour fêter ça, on a la toune thème pour vous. Mesdames et messieurs, chantée par Dave Knopfler, qui est nul autre que le petit frère de Mark Knopfler, le leader de Dire Straits, voici Mercenary Man.
Le voilà.
Mais légalement, à qui appartient-il?
À celui qui l'attrape.
Oh!
In the violence of the night, will you hear the siren scream? He only knows where he is going to. It's like a dream within a dream. His heart beats like a hammer, like the backbeat of a song. And the fire burns within him, and he knows he don't belong, but must be strong. He's a mercenary man. We'll be right back.
price tag on every deal for the mercenary man.
On devine tout de suite qu'il y avait vraiment beaucoup de choses à dire, en tout cas. On est déjà rendu à la fin de cette magnifique œuvre d'art. C'est pour ça qu'ensuite, on va continuer avec Porno for Pyro, qui est un groupe quand même assez intéressant, qui a été créé par l'ancien leader de Jane's Addiction, Perry Farrell, artiste, comment dire... imposant s'il en est, artiste de la scène de la musique. Alors je vous laisse avec Good God's Urge, tiré du dernier album des défunts Porno for Pyro. Bonne chance, bon, ça va bien passer. We'll be right back. Et on a Simon qui est avec nous en studio. Simon qui revient de Chicago, qui a assisté aux assises du baseball majeur. Simon qui va nous préparer un beau petit reportage. Peut-être tu veux dire salut à des amis. Simon, vas-y.
Je reviens pas pantoute de Chicago.
Ah, excuse.
Mais j'ai acheté le journal. Je vais pouvoir vous faire un reportage quand même.
Ouais, ça a coûté moins cher d'aller-retour, mettons.
C'est une question de temps aussi.
Ah bon, ben excellent. Fait que pendant que tu prépares ta chose, on est rendu au moment où je vous passe la recette de la tarte aux pommes sans pommes. Alors tout le monde, prenez crayon, prenez papier, prenez mémoire, les oreilles, ce qu'il faut. J'ai même mis de la belle petite musique en arrière, là, checker ça.
C'est la recette de la tarte aux potes sans tomes, c'est ça?
Non, de la tarte aux pommes sans pommes.
La tarte aux tomes sans... Okay,
ouais, tarte aux tomes sans tomes, si tu veux. Alors, tarte aux pommes sans pommes. 1. Une croûte de pâte à tarte non cuite. 2 croûtes si vous désirez couvrir la tarte, bien sûr. 2 croûtes si vous désirez couvrir la tarte. On a besoin de 30 biscuits Ritz. Spécial, hein? 30 biscuits Ritz. Une demi-cuillère à thé de sel. Une cuillère à soupe de jus de citron. Une tasse de sucre. A cup of sugar. 2 tasses d'eau. C'est important. 2 tasses d'eau. 2 cuillères à thé de crème de tartre. C'est quoi ça? 2 cuillères à thé de crème de tartre. T-A-R-T-R-E. Crème de tartre. Une demi-cuillère à thé de cannelle. On est rendu déjà à la préparation avec tous les ingrédients que je viens de vous nommer. Oubliez pas, la recette est archivée sur le site de la Cour à Scrap. Donc, si jamais vous n'avez pas le temps de tout prendre, n'hésitez pas à aller voir sur le site. Vous allez voir, il y a une belle photo de mascotte de Kentucky, sinon. Donc, préparation. Mélangeons ensemble l'eau, le sucre et la crème de tartre. Donc, on mélange ensemble l'eau, sucre et crème de tartre. Amenez à ébullition. On fait bouillir tout ça. Ajoutez les biscuits Ritz entiers et faire bouillir à feu modéré pendant 5 minutes. Donc, on ajoute les biscuits Ritz entiers et on fait bouillir à feu modéré pendant 5 minutes. Versez dans la croûte de tartre. Dans la croûte de tarte, bien sûr. On verse la mixture dans la croûte de tarte. Ensuite, vous saupoudrez de cannelle. Puis, on arrose de jus de citron. Ensuite, on garnit avec la garniture suivante. Une tasse de biscuits Ritz bien émiettés. Donc, ça veut dire environ 25 biscuits. Une tasse de biscuits Ritz bien émiettés. Une demi-tasse de cassonade. Une demi-cuillère à thé de cannelle. Ainsi que 1/3 de tasse de beurre fondu. Ça, là, vous mettez... Ça fait la garniture, là. Vous garnissez avec ça. Ensuite, on mélange ensemble. Vous étendez sur la mixture que vous avez fait bouillir auparavant, qui sont des pommes. Si vous m'aviez vu, ben, je faisais des guillemets avec les doigts. Ça fait tellement, tellement spirituel. Ben, c'est pas vraiment des pommes, là. Ensuite, on peut recouvrir le tout, bien sûr, de la deuxième croûte de tarte. Cuire à 425 degrés Fahrenheit... Ça en fait des degrés, ça, par exemple. Comment, déjà? 425 degrés Fahrenheit. Pendant 15 minutes. 425 degrés Fahrenheit pendant 15 minutes. Puis, on baisse la température à 375 degrés Fahrenheit pendant encore 15 à 20 minutes. Donc, les premières 15 minutes de cuisson à 425 degrés Fahrenheit. Puis, on baisse la température à 375 pendant encore 15 à 20 minutes. Et ça va vous donner... une tarte aux pommes sans pommes. C'est l'expérience culinaire la plus hallucinante que j'ai vue de toute ma vie. Je pense que Simon veut dire quelque chose.
Tom.
Vas-y.
Quand tu parles de tarte
oui?
avec la crème épaisse et riche,
oui?
je sais pas pourquoi, je pense à mon ex.
Ah ben c'est la vie, hein. Je sais pas quoi rajouter à ça. Je vais penser à une répartie très spirituelle. Je vais mettre la toune qui suit, qui vient de 1967 de mon groupe préféré Genesis, tiré de l'album From Genesis to Revelation. Un album qui est passé un petit peu sous le couvert parce que à l'époque, on croyait que Genesis, avec leur thématique et tout, était un groupe religieux. Donc, l'album a fini dans les sections religieuses de beaucoup de, ouais, c'est vrai, de beaucoup de disquaires. Ce qui fait qu'ils en ont vendu à peu près 100, 150. Ça reste quand même excellent. Avec le temps, ça l'a bien vieilli. Je vous passe de Conqueror. On s'en reparle après. Solide, ça, ça vieillit bien. Peter Gabriel qui nous chante ça à l'âge de 17 ans. Waouh! Maintenant, on va écouter Simon qui va se vider le cœur à propos du baseball majeur. Lui qui a voyagé beaucoup à la fin de son journal.
Oui, oui, oui. D'ailleurs, la page 118, on apprend que Régis Lévesque aurait soumis une offre à M. Yvon Michel du groupe Jim. C'est un groupe local qui s'occupe de faire la promotion de galas de boxe et promotion, oh, formation, entraînement des boxeurs québécois, donc de la scène locale. Et ici, ce que Régis Lévesque a fait comme offre, c'était de s'associer avec Yvon Michel afin de présenter un combat entre Arturo Getty et Davy Hilton.
En direct de la prison?
On se souvient que Régis Lévesque a déjà travaillé pour Interbox, qui était un ancien groupe dirigé par M. Michel.
Ben oui.
Et la tête y a enflé, on l'a mis à la porte, il s'occupait pas de ses affaires, il essayait de voir plus grand que ce qu'il y avait à voir.
Que son mandat.
Bon, M. Michel a répliqué à ça. Il l'a remercié d'avoir fait preuve de, comment dire, d'intérêt, mais on lui a dit que ça allait être impossible. Arturo Gatti n'aurait pas besoin de ça dans sa vie, et que si jamais il y avait à réfléchir à la possibilité d'affronter Davey Hilton, Yvon Michel tenterait de l'en dissuader et qu'il aurait de solides arguments. Entre autres, il dit que toute cette histoire n'est qu'un fantasme de Régis Lévesque et qu'il n'y croit pas du tout, et qu'Arturo n'acceptera jamais de se battre contre son beau-frère.
Son beau-frère.
Oui, Arturo Gatti est le beau-frère de Davey Hilton.
Oh.
Arturo Gatti a marié la sœur de Davey Hilton.
Oh.
Mais ce qui est étrange là-dedans, c'est qu'il n'y a personne qui a pensé y expliquer que Davey Hilton a 43 ans et est en prison.
Ouais, c'est spécial, hein?
Et on parle de tout sauf de ça comme raison. Mais bon, que voulez-vous?
Que voulez-vous? Faut se rappeler les hauts faits du héros national qui est Davey Hilton, peut-être?
Absolument, absolument. On va peut-être le revoir un jour. Peut-être un Hilton Willett 4, qui sait. Mais bon, dans le monde du baseball, dans le merveilleux monde de la balle, c'est la valse de la signature des joueurs autonomes ici. Carlos Beltran qui gagne 17 millions. US
par saison. Okay.
Il a signé avec les Mets de New York, mais lui, ça fait son affaire parce qu'il est sûr et certain qu'au mois d'octobre, il va être en vacances. Ils feront jamais les playoffs, oublie ça.
Même pas avec le 17 millions qu'ils investissent dedans, lui. Hein?
17 millions par année, c'est pas tout. Ils ont également signé Pedro Martinez pour une somme à peu près semblable.
Exactement.
C'est Omar Minaya, l'ancien directeur gérant des Expos de Montréal, qui est en train de créer, comment dire, une clique latine avec les Mets de New York. C'est l'armada latine.
Oh.
Et bon, réussiront-ils? On s'en reparlera la saison.
Au moins, ça redistribue de l'argent un petit peu vers des pays qui en ont au moins.
Oui, tout à fait. Tout à fait, oui. Ouais, en fait, suite au désastre qu'il y avait, je crois que c'est un ouragan qui avait détruit la République dominicaine il y a quelques années.
Oui,
c'est ça. Bon, ben, avec leur argent, ils ont construit des églises pour les aider.
Ah, c'est gentil.
C'est une idée.
C'est
super. On parle de Roger Clemens, originaire du Texas, qui a gagné 7 fois le trophée Cy Young. Roger Clemens se retrouve en arbitrage.
Parle-moi de Roger Clemens.
Il ne sait pas s'il veut toujours jouer. On ne le sait pas trop. Maintenant, il a passé la majeure partie de sa carrière à Boston. Ensuite, à New York, où il a gagné des séries mondiales. Il a signé l'année passée avec Houston parce qu'il voulait se rapprocher de sa famille.
C'est cute.
Oui, absolument.
Fait qu'il a accepté une réduction de salaire ou?
Non, en fait, en arbitrage salarial, il demande 22 millions de dollars américains par saison. Et on se doit de mentionner là-dedans que lorsque l'équipe sera à l'étranger, partira sur la route.
Lui, il va
bien,
pas.
Les premières journées, non, il va passer du temps avec sa famille.
C'est cute.
Oui. Barry Bonds, qui gagne lui aussi loin au-delà des 10 millions de dollars américains par année, a déclaré que si Roger Clemens avait un tel contrat, ben voilà. Voyons,
lui
c'est parce qu'il est blanc. Alors, Barry Bonds, victime de racisme, oui, évidemment. Oui. Plus près de nous, écoute, Tom.
Ben oui.
Plus près de nous, on a Éric Gagné, originaire de Mascouche, qui joue
connaît,
pour les Dodgers
lui.
De Los Angeles, en effet. A accepté un contrat de 19 millions de dollars américains pour 2 ans. Le directeur gérant des Dodgers de Los Angeles a dit qu'il n'aimait pas des situations où il devait se confronter avec ses joueurs. Bon, ça.
Fait qu'il a donné trop d'argent pour qu'il se la ferme.
Quelque chose comme ça, oui, mais
c'est
bon.
C'est super. Ça.
Ces deux lanceurs-là, Roger Clemens et Éric Gagné, mettons qu'ils coûtent un bras.
Ouais, ils font quelque chose que. Oh! Oh!
On vient de la.
Ça, c'est du jeu de mots, ça.
Ouais, c'est
eux deux, ils ont un salaire plus élevé que le PIB de l'île du Prince-Édouard, je suis certain.
Probablement, oui, c'est assez
incroyable. C'est aberrant, totalement.
C'est
ça.
Assez incroyable.
Bon, ben, on fait ça en retournant vers le bas ou t'as-tu d'autres choses?
Je n'ai qu'une dernière petite nouvelle.
Ben, vas-y, Simon.
C'est l'écurie de Jordan, l'écurie de Formule 1 Jordan qui est maintenant à vendre et ils sont tout à fait intéressés. Ils ne sont pas uniquement intéressés. Bientôt, l'écurie de Jordan passera à des intérêts canadiens.
Oh, yes!
Oui. Le groupe québécois et Pierre-Carl Péladeau, alias PKP, re-alias AKA PFK, serait dans la course et ça serait dans le cadre de sa stratégie de convergence et Julie Snyder est pressentie pour être pilote numéro 1.
Tu veux dire d'entendre encore plus parler?
Probablement. Alors, Jacques Villeneuve, Julie Snyder sur la première ligne.
Pour se changer les idées un temps soit petit peu, je vous laisse avec le thème de la. Ben, en fait, la toune thème de Sport Billy, qui est un sympathique petit garçon aux épaules en triangle qui vivait des aventures merveilleuses avec son chien abruti. Je vous laisse là-dessus, on s'en reparle juste après. Merci Simon, c'était
merci,
cool.
Merci Tom, ça m'a fait plaisir.
Dans mon rêve, Wanda a failli faire échouer les premiers Jeux Olympiques. Je suis vraiment heureux que l'amour du sport l'ait emporté sur la méchanceté.
Oh oui! Et moi, je serais bien content si on m'apportait un os à moelle.
Eh bien, depuis que j'ai rêvé de la Grèce ancienne et des premiers Jeux Olympiques, je peux te dire que je suis le champion des rêveurs.
C'est l'heure du réveil. Bonjour les enfants. Soyez les bienvenus au camp de vacances d'Oncle Jay. Je parie vous demander comment vous êtes arrivés là.
Qu'est-ce que tu as à faire de nous, Jack?
Mesdames et mesdames, venez, venez assister au plus fantastique spectacle du monde.
Assez déconné, on le sait qu'on est la grande attraction.
T'as raison, les jumeaux PD.
Mickey, Minnie, McNamara.
Mon chien est mourant. Je vais crever ces salopards de mecs.
Hey, Jack, il est mort, son chien.
Ta gueule, toi. Parce que ma patience est à bout. Je veux les voir morts. Cherche-les, trouve-les.
C'est inutile. Si nous sommes assez patients, bientôt, les chassés deviendront les chasseurs. Laissons notre proie venir jusqu'à nous. Et quand les jumeaux seront là, je les tuerai.
Si ça t'amuse d'attendre, te gêne pas pour moi, pauvre connard. Mais moi, je jouerai le jeu sur le terrain.
Alors regarde où tu mets les pieds, mec, ou ce sera toi que les jumeaux prendront au piège.
Envoie en patrouille 4 ninjas maintenant. Et les autres hommes de leur équipe, cette nuit.
Mais les ninjas ne se battent jamais la nuit.
On leur donnera des torches électriques. Cette nuit.
Mais les ninjas ne se battent jamais la nuit. Les ninjas ne se battent jamais la nuit.
On leur donnera des torches électriques.
Qu'est-ce que c'est?
Eh boy, les ninjas ne se battent jamais la nuit. Je pense que vous devriez vous en rappeler de cette phrase-là. Bien sûr que les ninjas se battent jamais la nuit, c'est pour ça qu'ils s'habillent en noir. Production ontarienne, parmi les productions ontariennes, la série des quatre films des jumeaux McNamara, les jumeaux moustachus, valent vraiment la peine. Sur ces extraits sonores, vous avez surtout savouré la fadeur extrême de Jake, le boss des méchants, qui s'est mérité une nomination pour le douteux d'or décerné au personnage de film le plus désagréable lors du tout premier gala des douteux d'or en octobre dernier. On met encore de la petite musique beatée ici, on parle de jeux vidéo maintenant, parce qu'il faut bien que quelqu'un en parle. Pikmin. Il y a déjà 2 ans que Nintendo, pour une énième fois, révolutionnait le monde du jeu vidéo avec un jeu totalement nouveau. Les Pikmin sont de petits bouts de plantes mouvantes qui, lorsque découvertes par le Robinson Crusoe de l'espace qu'est le capitaine Olimar, aident ce dernier à reconstruire son astronef. Nous, on contrôle le capitaine Olimar, un courageux petit bonhomme de 3 cm de haut qui dispose de 30 jours de réserve de nitrate avant de devoir respirer de l'oxygène nocif à sa race. La beauté de ce jeu, tout comme pour Paper Mario ou Smash Bros, c'est que Nintendo a encore réussi, par force de simplicité et de logique, à construire un monde fictif tellement réaliste que le jeu semble littéralement nous avaler. Oh boy, ça, je pense que je l'ai déjà lu quelque part. Que dire ensuite du challenge? Le jeu est construit de telle façon que tous les gamers, néophytes ou experts, y trouvent leur compte. Finir le jeu en 30 jours étant la normalité, les experts réussiront à le finir en moins de temps, alors que les néophytes rentreront à la maison après sans avoir retrouvé la machine à massage ou le coussin de pilote du courageux capitaine Olimar. Votre humble serviteur a réussi à finir le jeu en 11 jours. La légende veut que ce soit faisable en 9. Ouh! Que ce soit de récolter ces Pikmin, de les ordonner d'attaquer une araignée géante ou simplement de ramener un des 30 morceaux du vaisseau du capitaine, Pikmin demeure une expérience jeu vidéesque totalement unique, si ce n'est du tout nouveau Pikmin 2. Là, vous allez voir, j'ai trouvé quelque chose d'assez spécial. On dit merci au Chenatoscope, tout le monde. Chenomatoscope, pardon. Oh, là, je chaude ça. Ça va être plein de belles découvertes du passé.
Raymond Rouen en compagnie de Céline Dion. Est-ce qu'on dit Céline Dion maintenant? Parce que là, évidemment. Et maintenant, tu attaques le marché américain. Là. Moi, je suis un peu triste parce que ça veut dire qu'on ne verra plus au marché Atwater. Une première réponse sympathique. Écoute, Céline, tu as changé. On dit physiquement, je veux dire, ça se visible. Donc maintenant, la petite bretelle, l'épaule qui se dénude, le nombril qui nous sourit, la dentition qui sourit. Et j'ajouterais que, mettons que tu retournes voir le pape, ensuite il va t'accueillir, puis tu as l'impression qu'il va perdre son chapeau.
Franchement.
Je n'ai pas surpris, c'est sa limite. Une petite réponse. Et je termine un petit mot de la fin.
Oui. Un petit mot de la fin, je suis très contente et très heureuse d'avoir fait votre
connaissance.
Et si jamais je revois le pape, je vais lui parler de vous, puis vous m'en donnerez des nouvelles à propos de votre look.
Alors, si elle me confirme que nous ferons un album double l'an prochain. Merci beaucoup.
Merci. Eh bien, reste avec nous après la pause. Jacques Saint-Jacques dresse un bilan de la saison des Nordiques.
Hey, regardez!
Ah! C'est Rose voisine.
Es-tu avec nous autres?
OK.
Ouais!
Comment tu nous trouves?
Franchement meilleur.
Oh boy, hein? Rock voisine et l'annonce de lait. J'espère que vous allez l'avoir dans la tête quand même assez longtemps. Ça fait une bonne paye qu'on n'avait pas vu ça. Merci au Chenomatoscope encore une fois pour ces cassettes de Sans Limites. J'ai les deux premières saisons de Sans Limites chez moi. C'est dire à quel point ça rappelle de bons vieux temps. Tiens, ça me fait penser. C'est ce vendredi, lorsque je suis allé chercher ma ration quotidienne de douteux comestibles, je croisais cette charmante note de mon hôte à l'endroit de sa clientèle. Alors, ça va comme suit. Chez McDonald's, nous avons pris l'engagement de vous fournir des renseignements simples et faciles d'accès sur nos aliments. C'est pourquoi nous sommes fiers de vous offrir plusieurs choix d'accès simples aux renseignements nutritionnels sur nos produits au menu. Hey, hein? On se sent tellement informé quand on nous dit deux fois la même chose. Merci beaucoup. On va écouter le gentil bec et Beer Can. Champion, ce bec, je vous le dis, champion. On attend son prochain album qui est supposé ne pas être aussi dépressif que l'avant-dernier, ben, qui va être son avant-dernier, en fait. Seas of Change, bien sûr, qui vaut quand même la peine. Faut donner à César ce qui revient à César, tout comme on donne à Beck ce qui revient à Beck. Une coupe de cheveux bizarre, une attitude bizarre. Mais tout un compositeur, auteur, interprète. On passe à la BD maintenant, autre média négligé. Cette semaine, je ne saurais trop vous inciter à aller gratuitement dans une des nombreuses bibliothèques de l'île ou d'ailleurs lire ou emprunter les Kogaratsu, l'œuvre des Belges Bossé et Michetz. Kogaratsu, paru pour la première fois dans le Spirou magazine en 1983. On dut attendre 2 années avant la parution du premier album cartonné, série qui s'est poursuivie dernièrement dans le 10e album nommé Rouge Ultime. Le plus grand prodige des créateurs de Kogaratsu, outre bien sûr le scénario blindé, les dessins aériens et les personnages en béton, c'est la valeur historique de l'œuvre de Michette et Bossé qui retiennent l'attention. Voyager dans le monde de Kogaratsu, c'est véritablement s'imprégner du Japon féodal, à un point tel que l'on ne peut dénier l'aspect pédagogique important de cette excellente série, j'insiste. Pour ma part, le Kogaratsu numéro 9, La stratégie des phalènes, est la seule bande dessinée que j'ai lue deux fois d'affilée dans toute ma vie. Ça veut dire que j'ai fini la bande dessinée et je la recommence tout de suite tellement c'est trop excellemment hot. Ouais, c'est un mot ça. Vraiment, pour Kogaratsu, l'ensemble, 8.5 sur 10. Bon, ben c'est déjà la fin de la première édition. J'ai Frank ici à côté qui vient me faire un salut. Ça, c'est sympathique. Salut, Frank. N'oubliez pas, bien sûr, le concours Nommez l'émission. La cour à scrap change de nom. Aidez-moi à trouver le titre parfait. Merci à mes parents et aux copains qui ont déjà fait leur part à ce niveau. Et, comme je m'y en attendais, le très solide Nick est celui qui m'a fourni le nom gagnant à date. À date, j'insiste, à date. Nick qui, comme vous le savez, attend vos questions et commentaires à vous, les geeks, ou femmes qui côtoient des geeks, pour vous aider avec les problèmes d'interrelation que vous pouvez avoir. L'adresse, vous la connaissez, c'est geeknomore@commercialhotmail.com, GEEKNOMORE @commercialhotmail.com. S'il vous plaît, laissez-vous aller. Là, ça va juste nous donner du contenu pour vous fournir une émission tellement plus intéressante. Sinon, ben, je me nomme Tommy Godette, comme l'année passée, comme l'année d'avant, comme l'année qui s'en vient. Vous pouvez toujours me rejoindre au Kertwit @commercialhotmail.com, KERTWIT, pour me passer du matériel douteux ou n'importe quelle autre bonne nouvelle. Sur ce, merci d'écouter La Cour à Scrap, une émission tellement concept qui vous pitch des sons 8 bits quand ça finit à chaque fois. Je vous laisse avec Castlevania 1. Hey, ça rappelle des beaux souvenirs. We'll be right back.
emploi de temps disponible qu'à faire le chien chez Walmart. Le patrimoine, la détermination, le vouloir de connaître de qui se vaincre, qui sait quoi, comment l'avenir meilleur. D'autres bonnes raisons d'avoir sans le doute de se savoir par Choc FM. Choc FM, le fleuron de la cause patriotique, de la fierté, d'une détermination de la grande famille canadienne. Choc FM, le grand flag de tous les hommes et femmes canadiens.
Soirée de Satan, touchée par tes mains. Matin de sommeil, Choc, tu m'émerveilles. Vous êtes à l'antenne de Choc FM, la radio haïku de Montréal.
Moi, j'suis un gars qui est ben, ben down. Pis dans le plus profond de ma dépression, y'a juste une chose qui peut m'aider à sortir. C'est Choc FM, la radio des étudiants de l'Université du Québec à Montréal. Choc FM, c'est le rayon de lumière qui passe au travers des carreaux de ma fenêtre crasseuse. Merci, Choc.